RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
GG les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story avec aujourd'hui dans les GG Emmanuel Devilliers, le chef d'entreprise, notre ami Johnny Blanc de retour dans les GG dans les grandes gueules. Et puis nous sommes avec Maître Sandrine Pégan, avocate. Sandrine, vous avez beaucoup entendu parler à travers un procès qui a été... très médiatisé, le procès Attal, qui est toujours en cours d'ailleurs.
Qui est en cours, qui a commencé le 30 avril et qui se tient jusqu'au 17 juillet. Il y a 22 accusés, 112 infractions. Et en fait, il s'agit d'anciens policiers de la DGSE et DGSI qui se sont reconvertis en officine privée et qui, sur fond de loges de francs-maçons, ont rencontré des personnes et ont commis des délits et des crimes, et notamment le mien, puisque je défends la famille de celui qui a été assassiné.
C'est un pilote automobile.
Pour soi-disant une dette de 100 000 euros. Et donc il y a plein d'autres délits, d'autres crimes, et le procès est très dense parce qu'on termine les audiences tous les jours à 22h, 23h. Il y a pratiquement 80 avocats. Les questions sont interminables et tout le monde se tire dans les pattes parce que personne.
On en parlera sur France 5 ce week-end.
Ça, ouais. Ce week-end ou la semaine prochaine, on est en train d'organiser ça.
De quoi allons-nous parler dans la dernière heure des GG des grandes gueules? De l'Emmental. Pourquoi l'Emmental? Parce que aujourd'hui, l'Emmental n'est quasiment plus français. L'Emmental que vous mangez est un Emmental qui vient notamment des Pays-Bas. Alors, est-ce qu'on doit sauver l'Emmental? Emmanuel Macron, qui va nommer à la Banque de France un de ses proches, c'est le grand verrouillage à l'approche des élections présidentielles. Mais on va commencer par
Pas encore fait parce que le Sénat pourrait se rebiffer.
Alors que le Conseil constitutionnel, Richard Ferrand.
Ça, c'est fait. Madame Montchalin à la Cour des comptes.
À la Cour des comptes. Et maintenant, un autre proche, peut-être, à la Banque de France.
C'est le grand recasage.
Alors, le Parti Socialiste et le Rassemblement National disent, c'est bien, comme ça, on verrouille les institutions. Et s'il y a une alternance, on ne pourra pas exercer normalement le pouvoir.
Et quand Emmanuel Macron reviendra en 2032, tous ses copains seront là.
Donc, venez en discuter avec nous tout à l'heure à 11h20. D'abord, on va s'intéresser au procès Bruel. Procès Bruel. L'affaire judiciaire Bruel.
Le procès est déjà instruit. Oui.
Il n'y a pas de procès. Le procès, il est dans les médias en ce moment. Mais surtout avec les premières annulations de concerts et la pression qui est mise par la mairie de Paris. Ben là, ils lui ont cassé la voix au Québec puisque trois concerts ont été annulés. Et là, maintenant, c'est la mairie de Paris qui met la pression sur Patrick Bruel.
Oui, depuis plusieurs jours déjà, on assiste à un procès. En fait, le procès a commencé dans les médias par avocats interposés. Chacun parle, chacun s'exprime. Alors maintenant, ce sont les politiques. C'est vrai qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Donc, on a entendu Mme Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement, dire qu'elle n'assisterait pas au concert de Patrick Bruel. Je pense que... Je sais pas si pour lui c'est un choc. Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, idem, a dit ce matin sur France Inter, je ne peux pas aller au concert de Patrick Bruel. Et là, le maire de Paris, Emmanuel Grégoire, nous explique que Patrick Bruel devrait se mettre en retrait, devrait mettre un terme, peut-être provisoire, à sa carrière et de pas venir se produire, à Paris. Alors, il est prévu en juin, donc dans quelques jours au Cirque d'hiver, et puis ensuite au mois d'octobre au Zénith. Alors, c'est vrai que le maire de Paris, Emmanuel Grégoire, qui est empêtré dans le scandale des agressions sexuelles dans le périscolaire, est-il le mieux placé pour faire la leçon? On pourrait poser la question à Emmanuel Grégoire, je ne sais pas si ça a été posé. Est-ce que les politiques doivent se prononcer sur une affaire qui n'est qu'au début de son parcours judiciaire?
Alors déjà, du point de vue droit, Maître Pégan.
Alors, avant de répondre à cette question, je suis obligée de faire un petit propos introductif parce que vraiment, dans ce type d'affaires, moi, ce qui m'inquiète le plus, ce qui m'inquiète profondément, c'est pas seulement l'accusation. Moi, ce qui m'inquiète, c'est le réflexe collectif. Parce que justement, là, maintenant, tout le monde est en train de donner son avis, de mettre son petit grain de sel. En fait, là, on est à une époque où la multiplication des plaintes, finit par valoir preuve. C'est comme si l'addition des récits, en fait, venait à supprimer totalement le doute. Et c'est comme si toutes ces plaintes-là, je parle de plaintes judiciaires, je ne parle pas des accusations, parce que c'est comme si moi je vous accusais, Alain, d'avoir essayé de m'embrasser en force tout à l'heure dans le couloir, ça serait qu'une accusation. Je n'ai pas déposé plainte, ça n'a pas de valeur pénale. Donc là, c'est comme si toutes ces plaintes, 10, 12, je ne sais plus à combien on en est, si aujourd'hui ça représenterait finalement une vérité judiciaire. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut arrêter de confondre la protection et l'abdication de l'esprit critique. Je ne parle pas de la parole de l'enfant qui est recueillie quand il est enfant. D'accord ? Où là, en effet, la société doit écouter avec la plus grande vigilance. Mais là, on est avec des faits allégués qui remontent il y a 35 ans. 35 ans, je vous
dis. Pas tous. Fanny Flamand, oui,
c'est
35
ans. Oui, je parle pour Fanny Flamand et je parle pour les autres plaintes aussi, parce qu'ils remontent à, pas forcément à 35 ans. Mais là, en 35 ans, ne serait-ce que pour revenir sur les faits de Fanny Flamand qu'elle dénonce, pardon, mais vous avez la mémoire qui est reconstruite, vous avez des souvenirs qui sont fragmentaires, vous avez un contexte social qui est totalement différent, vous avez une perception des choses qui évolue avec le temps, qui évolue avec les récits médiatiques et avec l'emballement collectif. Et vraiment, moi, je veux mettre quelque chose dans la balance, non pas de la présomption d'innocence, etc. Tout ça, à chaque fois, on en reparle suffisamment. Mais vraiment, le doute, s'il vous plaît, ce n'est pas une insulte aux plaignantes. Pas du tout. C'est juste la colonne vertébrale de notre état de droit. La justice, elle n'a pas été créée pour croire, elle a été créée pour vérifier. Et on est dans une tentation moderne.
Comment peut-on vérifier des faits qui remontent à 35 ans ?
Alors, c'est pour ça que je dis, il faut faire prévaloir le doute. Parce que justement, comment on fait pour retrouver des éléments matériels, un témoin ? Parce que là, en fait, c'est qu'une scène qui nous est décrite par Flavie Famant. Mais on n'a pas de témoin, on n'a pas de constatation, on n'a pas d'éléments matériels.
Tu dis, le fait qu'il y ait de multiples plaintes ne fait pas de Patrick Bruel forcément un coupable. Néanmoins, ça trouble. C'est-à-dire qu'on a l'impression quand même qu'on est face peut-être à un serial violeur. Je reprends entre guillemets cette expression, puisqu'on a beaucoup de témoignages, beaucoup de plaintes qui vont dans le même sens.
Ou pas. C'est pour ça que je dis vraiment, mettons en avant à chaque fois le doute et gardons l'esprit critique. Là, ce qui se passe avec toutes ces multiplications de plaintes, avec des faits qui sont dénoncés, qui semblent être similaires. Mmh. Attention à certaines personnes qui, malheureusement, et je suis obligée de le dire parce que je le vois dans les prétoires, elles instrumentalisent la justice pénale à des fins personnelles. On l'a vu avec Coé, on l'a vu avec Sam Lamjred, qui est un chanteur marocain qui a été reconnu coupable de
Donc
viol.
Donc parfois, il y a des femmes qui peuvent mentir.
Et qui peuvent justement.
Quel serait l'intérêt de Flavie Flamand ?
Je parlais de Coé. Mais
quel serait l'intérêt de Flavie Flamand de se replonger 35 ans après ce qu'elle a vécu dans tout ça ou pourquoi, enfin,
Je ne suis pas à sa place, mais bien sûr que j'ai des hypothèses que je pourrais avancer. Je pourrais dire qu'elle a encore envie de rester sur le devant de la scène, parce qu'il y a deux ans, quand elle a déposé plainte contre Hamilton, malheureusement, il s'est suicidé, et du coup, donc il n'y a pas eu de poursuite de l'action publique. Voilà, il peut y avoir tout un tas de raisons, mais ce n'est pas parce qu'elle le dit que c'est vrai. Voilà, c'est pour ça que je veux vraiment qu'on lutte contre cette tentation moderne qui est que d'accuser, c'est prouver. On garde à l'esprit le doute. On continue la sérénité de l'instruction.
Les militantes féministes disent « on vous croit ». Le fameux « on vous croit ».
Oui, mais alors le problème avec ces militantes féministes, c'est que leur excessivité les dessert complètement. Parce qu'elles vont tellement dans les extrêmes, donc là, annulation des concerts.
Pétition, et je peux te dire qu'il y a des manifs qui se préparent devant le Cirque d'Hiver, le Zénith et toutes les salles qui vont accueillir. Il fait une cinquantaine de salles cette année, Patrick Bruel.
Et d'autres témoignages vont arriver à charge contre
Peut-être,
Patrick
oui,
Bruel.
Peut-être, mais alors, encore faut-il qu'ils soient vrais, ces témoignages. C'est que là, en fait, on est dans une époque moderne où on veut à tout prix trouver des coupables. Mais attention, moi je vous dis, il faut savoir respecter.
Est-ce que le maire de Paris est dans son rôle lorsqu'il dit qu'il devrait se mettre en retrait, mettre sa parenthèse en carrière?
Mais personne n'est dans
mettre
son...
sa carrière en parenthèse, pardon.
Personne n'est dans son rôle, parce que ce procès n'a rien à faire sur la place publique. Je suis désolé, si ça s'appelait Monsieur Martin au lieu de Monsieur Bruel, mais personne n'en parlerait de cette histoire. On serait pas au courant, le mec il serait jugé par un vrai tribunal, et puis certainement ou pas condamné, selon si c'est avéré ou pas. Sauf que là, je vais te dire un truc, mais il est déjà coupable, Bruel. Le maire de Paris lui dit, non, tu supprimes tes concerts, t'as rien à foutre d'une salle de concert, c'est une honte. C'est ce qu'on est en train de lui dire. Bah, je suis désolé.
Donc le maire de Paris l'a déjà condamné, quoi.
Mais ce qui est marrant, parce que tous ces gens qui te parlent sans arrêt de la présomption d'innocence, ça me fait rigoler, mais ils l'appliquent jamais.
Sauf quand c'est les concerneux.
Ben voilà.
Du coup, un jour il est poursuivi,
j'estime que cette affaire n'a rien à faire dans les médias.
Pour le péri scolaire,
désolé, comme toutes les affaires de justice, ça n'a rien à faire dans les médias.
Mais non, sauf que ça, non, mais Johnny, d'accord, mais ça c'est inévitable aujourd'hui quand il y a une personnalité aussi connue que Patrick Bruel.
J'ai envie de dire, c'est la rançon du succès.
C'est dans les médias. Et le secret de l'instruction ou ce que tu veux, mais il a encore que là, il n'y a même pas d'instruction. Ça, c'est en place publique.
Le procès, il est fait.
Oui, parce que là, en fait, la réputation, elle vous fait avant même le procès.
Je suis d'accord.
Tu vois, c'est ça qui est pénible.
C'est regrettable.
Et regarde ce qui s'est passé avec Harry Habitant. Harry Habitant, pareil, malheureusement, tous ces spectacles ont été annulés. 3 ans d'instruction, 3 ans où il a été mis en examen pour viol, et à la fin, il y a eu un non-lieu confirmé en appel. Alors on vient de dire, ah mais non, c'est pas une preuve de son innocence. Oui, mais il y a eu un non-lieu par la justice.
Là, Sandrine, on est dans l'ordre du commentaire. Factuellement, il y a des opposants qui vont aller manifester de manière grandiose, puisque c'est une personnalité unanimement connue, appréciée. Il a beaucoup de talent, il est riche, il coche toutes les cases. et il a été tellement médiatisé, y compris dans le cinéma, qu'il va y avoir des manifestations considérables, crescendo, de plus en plus fortes, des incidents. Donc la question qui est posée, est-ce qu'il est jouable qu'il maintienne ses concerts? À mon avis, moi qui étais organisateur de spectacles, directeur de parc, etc., avec la gestion du public, je pense que ça n'est pas jouable et qu'il doit maintenant démonter sa tournée parce que il va sinon devoir la démonter dans des conditions
encore bien plus graves. Je vais faire jouer le principe de précaution.
Allez, tu serais encore aujourd'hui gestionnaire d'un grand parc. Oui. Tu sais que t'as un concert de Bruel prévu puisque tu l'as booké, là,
j'ai
il y a plusieurs mois.
Un concert de Bruel en 2003 au Futuroscope.
Aujourd'hui, tu l'annulerais.
Je pense que c'est pas jouable parce que sauf peut-être la semaine prochaine parce qu'il y a une relative inertie, mais dans les temps ultérieurs ça sera pas jouable parce que évidemment il y a tout un tas de gens à tort ou à raison, et là je veux bien
risque de rejoindre l'ordre public,
qui vont se servir de cette situation pour se mettre en valeur, faire du trouble à l'ordre public, faire du show. Alors ceci étant, Sandrine, quand il y a une pluralité de plaintes, on peut pas raisonner comme si c'était un cas isolé.
Non, je suis en train de te dire que c'est justement là où vraiment le bas blesse chez vous et dans notre société actuelle. C'est ce que je disais, c'est pas parce qu'il y a une multiplication d'accusations que ça finit
là,
par
là,
valoir preuve.
Déjà, là.
Je plaide, j'aimerais bien être la
Il y a trois
Bruel,
concerts de Patrick Bruel qui ont été annulés au Théâtre Capitole du Québec. Il devait faire trois dates, elles ont été annulées par l'agence d'événementiel canadienne qui organisait tout ça.
D'un mot, si je dis vraiment ce que je pense, encore une fois, c'est quelqu'un de fortuné, c'est quelqu'un qui a réussi dans tous les domaines, il a été même champion du monde de poker. Pour l'instant, il n'a pas d'interdiction de déplacement. Donc,
il n'est même pas sous contrôle judiciaire.
Qu'il profite de sa liberté, mais continuer sa carrière d'artiste plein pot, ça tombe très mal avec ce calendrier. Le terme, c'est pas jouable.
C'est vrai que le Cabruel, aujourd'hui, dire qu'il met un terme à sa carrière, bon, à 66 ans, tu te dis, bon, allez, sa carrière, elle est faite. Mais comme tu disais tout à l'heure, tu prends un mec comme Harry Habitant, qui a pas du tout 66 ans. Non. Lui, n'empêche, il a flingué sa carrière. Oui. Et puis, à la fin, il n'est pas condamné.
Il essaye difficilement de la redémarrer, c'est compliqué pour lui.
Vous
ne l'avez pas vu dans un film français récemment, Harry Habitant, et pourtant, il a été reconnu.
Ouais,
pour
voilà,
ça, Emmanuel, moi, je te trouve un peu.
Et qu'il se concentre sur sa défense, qui est quand même l'essentiel. On peut pas à la fois.
Oui, mais ça va durer 5 ans.
Non, il se concentre sur sa défense. Tout homme a droit la miséricorde.
Oui, mais tu te rends compte, Emmanuel,
s'en sorte.
Que pour l'instant, Patrick Bruel a été ni convoqué, ni entendu, ni rien du tout. Il faut déjà qu'il arrête toute sa vie.
Il y a déjà eu des procédures. Il y a déjà eu des procédures.
À l'aune de l'ampleur du dossier, c'est pas jouable, c'est plus jouable.
Donc il y a un truc qui, je voudrais t'interroger, Maître Pégan.
Je vous en prie. C'est 500 euros l'heure.
Non, mais ce qui me surprend, c'est qu'aujourd'hui, les accusatrices qui se disent donc victimes d'agressions sexuelles, de viol,
donc les plaignantes,
au lieu de rentrer dans un commissariat pour porter plainte, passent par Mediapart. C'est-à-dire que avant, on va voir les journalistes de Mediapart. Et pourquoi en fait? Parce qu'on n'a plus confiance en la justice. On dit ça sert à rien d'aller voir de porter plainte. Non, mais je pose la question.
Ouais,
et qu'on se dit au moins avec Mediapart, on va avoir un écho médiatique, ça sera repris par tout le monde.
Oui, sauf que bon, malheureusement, ces plaignantes-là qui se font l'écho dans la presse, si elles ne vont pas déposer plainte, via le commissariat ou via directement le procureur de la République, ça n'a aucune valeur pénale. Donc tu ne peux pas t'en servir après au procès.
Oui, mais moi je pense que ces personnes-là, ce n'est pas forcément le procès qu'elles veulent, c'est elles veulent désigner leur agresseur et que cet agresseur soit, comme le fait Emmanuel, condamné publiquement, socialement.
Oui, sauf que c'est
Emmanuel, il nous dit qu'il doit se mettre en retrait. Donc,
parce que dans l'intérêt de sa défense, qui est quand même grave, parce qu'il y a une multitude de plaintes, dans l'intérêt crucial de sa défense compte tenu des enjeux, il doit se mettre en retrait.
Parce qu'il
continue ses spectacles, il va accroître la gravité du dossier et il va lui-même accroître ses condamnations potentielles. C'est très simple.
Ce que tu as dit, Olivier, c'est complètement faussé, parce qu'à partir du moment où la plaignante va se plaindre à Mediapart, donc derrière, c'est faussé. Pourquoi? Parce que comme du coup, il n'y a pas d'enquête, ni préliminaire, ni judiciaire, ni ce que tu veux, du coup, on ne peut pas s'assurer que ce qu'elle dit est la vérité. Mmh. On ne peut pas interroger les témoins, l'entourage.
Mediapart va dire, on a fait une enquête. En fait,
il ne se substitue pas du tout à la justice, ça va pas ou quoi? C'est depuis quand?
Et en fait, il y a une confusion des rôles.
Ils ont qu'à donner des peines aussi.
Il y a une confusion des rôles.
Vous savez ce qu'on va faire maintenant? En fait, vu qu'on est dans une espèce de justice où finalement on condamne sans preuve, et en fait on va même plus juger les preuves, on va faire juste une comptabilité des témoignages, et puis après on sera dans un espèce de concours d'émotions publiques. C'est ça en fait qu'on veut.
Grégoire veut intervenir dans les GG. Bonjour Grégoire.
Bonjour les GG, comment ça va?
Bonjour.
Ça va. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui il doit mettre sa carrière entre parenthèses, Bruel, ou pas?
En fait, moi j'ai l'impression qu'on n'en parle pas beaucoup, mais moi je suis choqué qu'une personne qui a la trentaine soit attirée par une jeune fille de 16 ans. Moi j'ai ma nièce qui a cet âge-là, et s'il y a quelqu'un de 30 ans qui est attiré par elle, franchement je serais très inquiet, et j'aurais envie que d'une chose, c'est de lui péter la gueule, excusez-moi du terme. Donc,
rappelez-moi la différence d'âge entre la première dame de France et le président. C'est quoi la différence? Aucun rapport. Ah bon, il était étudiant à l'époque, c'est exactement la même chose.
Il avait 15 ans.
Il n'était même pas étudiant, il était lycéen.
Oui, lycéen, donc il a 15 ans, et là, ça choque personne.
Allez-y, Grégoire.
Moi, je suis désolé. Donc, les accusations de viol, on va laisser la justice faire son travail.
Ça serait bien, oui.
Il y a une présomption d'innocence, donc ça, je suis d'accord. Maintenant, cette différence d'âge. Et quand j'entends son avocat hier qui dit Patrick Bruel, quand il avait 30 ans, il faisait comme si qu'il avait 20 ans, un jeune de 20 ans. Enfin, c'est quoi cette défense, Madame l'avocate? Je sais pas ce que vous en pensez, mais
pas la meilleure des défenses.
Bon, je ne me permettrai pas de critiquer la stratégie de défense de mon confrère, d'autant qu'ils sont deux, hein, ils ont mettre un grain, et ils ont aussi, il a aussi mettre Céline Lazek, qui était l'avocate de Morandini, l'avocate de Pierre Palmade. Après, Christophe Ingrin, bon, à sa décharge, mine de rien, il sort d'un lourd procès, qui d'ailleurs n'est pas terminé puisqu'il va plaider dans quelques jours pour Sarkozy. Donc, il est peut-être un peu fatigué.
Mais est-ce que d'ailleurs les avocats ont raison d'aller sur les plateaux télé alors qu'on est au tout début de, il n'y a même pas d'instruction? Hein, puisqu'on est au moment des dépôts de plainte. Donc on va voir d'ailleurs si un juge se saisit tout ça.
Mais il y a deux choses.
Pour l'instant, c'est le parquet qui réunit la plainte.
Qui a centralisé. Je ne suis pas certaine que ce soit la meilleure des choses, oui, en effet, que l'avocat se présente, d'autant que Patrick Bruel a fait un communiqué via ses réseaux sociaux. Ouais, donc ça suffisait déjà.
Grégoire, il y a deux choses. Il y a effectivement le fait qu'il ait eu 32 ans, qu'elle ait eu 16 ans. Et ça, moralement,
c'est la morale.
Non,
c'est ce que je dis, c'est la morale.
Ça, c'est anachronique. Pardon, parce que tu peux pas comparer avec ce qui se passait en 91 et ce qui se passe maintenant en 2026. Donc, au niveau de la moralité, c'est pas le même
plan. C'est pour ça que je dis ça, c'est du point de vue moral et on peut être choqué, et moi je le suis. Et puis après, il y a les plaintes, le viol, l'agression sexuelle et le fait même qu'elle ait été drogué, c'est ce que dit Flavie Flamand,
il aurait mis quelque chose dans son thé. Comment tu veux constater ça matériellement?
Oui, sinon, ça s'appelle une dénonciation calomnieuse.
Pardon, je suis obligée de rebondir là-dessus parce que tu mets le doigt sur quelque chose qui est extrêmement irritant. Parce que, en effet, j'ai eu la chance de pouvoir faire relaxer des individus qui étaient poursuivis au départ pour violence conjugale, violence sexuelle. Et je parle relax parce que c'était devant le tribunal correctionnel. On était dans le cadre d'un délit. Quand après, tu réussis à obtenir une relaxe et que tu veux porter plainte contre la plaignante qui a fait une dénonciation mensongère, une dénonciation calomnieuse, eh bien figure-toi que c'est pas poursuivi. Le parquet, il en a rien à faire. Donc t'as une femme qui a déposé plainte contre son ex pour X raisons, parce qu'elle a compris qu'il l'avait trompée pendant leur relation, du coup elle veut se venger, elle dépose plainte contre lui pour viol ou genre de choses, agression sexuelle, je réussis à le faire relaxer et derrière je dépose plainte contre elle pour dénonciation calomnieuse, eh bien ça marche pas. C'est pas poursuivi, on dit ah ben non, il fallait quand même bien qu'elle porte la parole, alors que dans le dossier, tout était là pour dire qu'il n'était pas coupable. Tu vois, donc ça,
merci
c'est
Grégoire
évident.
D'avoir été avec nous. Concert annulé, la tournée de Patrick Bruel peut-elle tenir? C'est la question qu'on a posée, on vient d'en parler un quart d'heure. Là, vous avez entendu les uns et les autres dans les GG, Emmanuel, Johnny et Sandrine. Vous dites, la tournée peut-elle tenir? Non, ça vous semble compliqué à plus de 60, à quasiment 70%. Dans un instant, la politique...
C'est Emmanuel qui a raison, alors.
La politique président de la République, qui veut nommer l'un de ses proches, Emmanuel Moulin, à la Banque de France. Est-ce qu'on est dans le grand verrouillage des institutions? Est-ce qu'on est même dans l'abus de pouvoir? C'est au 32-16 que ça se passe, il est 11h20.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
Les GG, les Grandes Gueules sur RMC, RMC Story, les GG avec vous, bien sûr, au 32-16. Vous avez raté les Grandes Gueules, vous avez les podcasts à votre disposition. Les podcasts, c'est sur l'appli RMC. Vous avez l'émission et puis vous avez tout ce qu'on peut se raconter pendant la pub. Là, il y a une anecdote sur ce que nous a raconté maître Sandrine Pégan, qui est allée aux courses et qui a gagné aux courses des petites sommes. Elle a gagné grâce à l'intelligence artificielle. Je vous laisse découvrir ça. Je rappelle que jouer, ça peut être dangereux, ça peut créer l'addiction. Mais jouer et gagner des beaux cadeaux dans la perspective de la Coupe du Monde, ça, faut vous laisser faire. Faut tenter de gagner la totale de la Coupe du Monde grâce à RMC. Comment est-ce que ça se passe? Vous envoyez liste par SMS au 732-16. Liste par SMS au 732-16. La Coupe du Monde arrive, on vous offre des maillots de l'équipe de France, les albums Panini, des baby-foot. Vous avez aussi des barbecues, des tireuses de boissons. Et vous avez des grands écrans et des barres de son. Envoyez liste par SMS au 732-16. Vous avez 5 minutes devant vous. Ensuite, c'est un tirage au sort. Et à tous les coups, l'on gagne. Allez, maintenant, on va parler du grand verrouillage par le président de la République.
et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuat nec mergitures, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sort, aux jeteurs de sort.
Le karaoké chez vous, ça marche du feu de Dieu.
Emmanuel Moulin, vous connaissez ce nom? Non, Emmanuel Moulin est un proche du président de la République. Il doit être auditionné par la commission des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat avec en perspective le fauteuil de gouverneur de la Banque de France.
Alors tout d'abord, ce n'est pas la compétence d'Emmanuel Moulin qui est en cause parce qu'il coche toutes les cases. C'est un haut fonctionnaire, il a été directeur du Trésor, il est passé par les cabinets de Nicolas Sarkozy et jusqu'à peu, il était secrétaire général de l'Élysée aux côtés d'Emmanuel Macron. Il a 57 ans. Il pourrait donc remplacer François Villeroy de Gallo, le gouverneur depuis 2015 de la Banque de France. C'est l'un des beaux fromages de la République, dénoncé souvent par notre ami Charles Consigny. C'est un mandat, c'est une durée de 6 ans, le mandat, et c'est renouvelable une fois. Donc on peut y rester 12 ans. C'est pas mal. Bon, le problème, c'est que... Alors Emmanuel Moulin, c'est pas fait, parce que ça doit être voté par les deux assemblées, Sénat et Assemblée, et Assemblée nationale et de le Parlement. Et il suffit, pour qu'il ne passe pas, que les 3/5 des suffrages soient défavorables. On sait que déjà la gauche va voter contre, le RN aussi, donc tout repose sur les voix des LR. Ils sont en train de négocier avec les LR pour faire passer Moulin. Richard Ferrand, au Conseil constitutionnel, ça s'est joué à quelques voix près, parce que effectivement, ça commence à faire beaucoup, c'est ce que disent les socialistes. Donc Richard Ferrand au Conseil constitutionnel, Amélie de Montchalin à la Cour des comptes, et maintenant Emmanuel Moulin, le secrétaire général de l'Élysée d'Emmanuel Macron, à la Banque de France. On verrouille, alors c'est légal puisque c'est les pouvoirs de nomination du président, mais est-ce que c'est quand même pas déplacé, sachant qu'Emmanuel Macron quitte le pouvoir dans un an?
Ouais, au PS, on parle de nomination de complaisance, et Jean-Philippe Tanguy pour le RN dit, voilà, on anticipe la victoire du Rassemblement National, on veut tout verrouiller, on veut nous empêcher de travailler.
Pour rigoler, on va juste mettre le Front National à la place de Macron aujourd'hui, il ferait quoi? Je veux dire, si tu me donnes le pouvoir de nommer les gens à des postes clés et que j'en ai le réel pouvoir, évidemment que je vais prendre dans les gens que, évidemment, à compétence nécessaire pour le poste, mais je vais prendre les gens qui sont quand même plus de ma famille et qui me paraissent plus adéquates d'assumer le projet que d'aller chercher des gens qui sont dans l'opposition et qui vont me foutre des bâtons dans les roues tous les 5 minutes.
Oui, tu peux mettre des gens moins marqués.
Mais alors, soit tu changes carrément le système et c'est plus le président qui nomme ces gens-là, et puis c'est nommé soit par l'Assemblée, soit par le Sénat, j'en sais rien, ou les deux.
Ou tu peux faire comme aux États-Unis, c'est-à-dire que le président qui arrive... Il change tout le monde. Oui, ben. Et en fait, comme ça, il a les gens qui vont le servir, entre guillemets, enfin, qu'on lui permette d'appliquer sa politique. Parce que la crainte, c'est que ces gens-là, au poste où ils sont, freinent une politique qui soit
pas à leur faveur. Ça correspond bien au système français. Tu mets en France, je veux dire un truc, on élit un président, et puis la semaine d'après, on lui donne pas la majorité à l'Assemblée, pour que ce soit bien le bordel. Bon, ben, on aime bien ça. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On est dans un pays tordu.
Oui, Sandrine.
Moi, je n'ai pas parlé aussi du Conseil d'État avec Marc Guillaume, un proche d'Emmanuel Macron, qui est nommé au Conseil d'État.
Non, je suis pas choquée, je te rejoins complètement, Johnny. J'ai déjà eu l'occasion de le dire ici, je crois, il n'y a pas plus tard qu'il y a 15 jours. C'était pour, je ne sais plus d'ailleurs, quelle nomination qui était mise en cause. Moi, je trouve que pareil, qu'à partir du moment où tu as envie de nommer quelqu'un parce qu'il fait partie de ton entourage, parce que tu as confiance en lui, tu connais ses compétences, je ne vois pas où est la difficulté. Là, en tout cas, la vraie question pour moi, c'est celle des prérogatives de la Ve République. Oui. La Constitution, quand elle a été rédigée en 58, c'était dans un contexte de crise et d'instabilité. Aujourd'hui, voilà, est-ce qu'il ne faudrait pas changer la Constitution pour que justement il n'y ait plus ces prérogatives qui soient données.
Et par exemple, à l'Assemblée, le président de la Commission des Finances, maintenant c'est devenu la tradition, il est dans l'opposition. Donc c'est Éric Coquerel alors que c'est le Cornu qui a Matignon. C'est possible.
Oui, parce que c'était une connerie inventée par Nicolas Sarkozy, mais qui reste une connerie, mais parce que ça crée une complication dans le fonctionnement parlementaire, Dieu sait s'il y en a déjà. Donc là, sur les nominations dont on parle, c'est un recasage en remerciement de proches soutiens, soutien aveugle, vraiment le clan... pas le clan des Siciliens, mais du dernier carré.
C'est ce que tu dis.
Mais ils sont quand même pour pondérer, en dehors peut-être de celui du Conseil d'État, là, qui est en balance.
Marc Guillaume.
Ils sont quand même soumis à une certaine neutralité dans ce type de fonction, la Banque de France, la Cour des comptes. Donc, la nomination de complaisance en remerciement n'a pas forcément d'effet direct sur des structures en plus qui sont de grande taille et très collégiales de fonctionnement.
Pardon, je te trouve naïf, Emmanuel, et c'est toute ta fraîcheur d'âme. C'est ta fraîcheur d'âme qui s'exprime là, mais pardon. On imagine bien. Imaginons que c'est Jordan Bardella qui est à l'Élysée. tu crois pas qu'un Richard Ferrand, qui est vraiment un politique, un Richard Ferrand, c'est pour ça qu'Emmanuel Moulin, il est moins politique, c'est plus un techno, c'est un haut fonctionnaire. Mais Richard Ferrand, qui est un politique, qui était au Parti Socialiste pendant des années, qui a rejoint ensuite Emmanuel Macron, tu crois pas qu'au Conseil constitutionnel, il n'aura pas la tentation de retoquer les lois qui lui pourraient lui déplaire venant du camp du Rassemblement National. Et si c'est Jean-Luc Mélenchon, pareil. C'est-à-dire si on a une offre un peu plus radicale, LR, visiblement, il compose parce que
on a tellement vécu de choses depuis une dizaine d'années, tellement de choses vraiment minables. Je pense par exemple la tournée du grand débat. Ça, c'était quand même.
Et après les gilets jaunes,
quand même une catastrophe. La convention citoyenne pour le climat. On réunit des incompétents et on essaye d'en sortir quelque chose. Et après, on l'impose à toute la population.
Il n'en a rien resté de la convention citoyenne sur.
Heureusement.
Et puis il y a eu la convention citoyenne sur la fin de
Alors,
vie.
Alors Monsieur Moulin à poivre, c'est encore autre chose.
Emmanuel Moulin à poivre, ça va être la vanne du jour. Je te remercie de nous l'avoir servi comme ça sur un plateau. Mais en faisant ça, finalement, est-ce que ça n'alimente pas justement l'électorat du Rassemblement National? Tu sais parce que mais si. Parce que aujourd'hui, soit de la France insoumise, du Rassemblement National, qu'est-ce qu'on dénonce? On dénonce toujours un système. On se veut être les partis anti-système. Et finalement, en procédant à ces nominations, bah, tu alimentes leur électorat en disant, voyez, quand on vous dit que c'est la même bande, que c'est les copains, qu'ils verrouillent tout, qu'ils ne veulent pas que ça change, qu'ils se mettent au poste clé, bah, finalement, tu as une bande. Alors, appelle ça de la démagogie, appelle ça du populisme, mais tu fournis le carburant.
C'est vrai qu'LFI est tellement bien placé pour parler de système et de choses verrouillées, quand tu vois comment ça fonctionne dans leur propre parti, effectivement, en ce qui est question de verrouiller, ils savent de quoi ils parlent. Parce que, en fait, on a bien vu que dans ce parti-là, tous les gens qui voulaient sortir un peu la tête, on les a dégagés. Donc, il y a un moment où...
Oui, mais eux, ce qu'ils dénoncent, ça, si tu veux, l'électorat, ils s'en fichent des querelles qu'il y a pu y avoir entre les différentes personnalités de la France insoumise.
Je sais pas sincèrement si.
Mais si, bien sûr que si.
En pensant à ça, tu vois.
Mais pourquoi on n'instaure pas une autre règle, c'est-à-dire que le président nouvellement élu nomme, dégage ceux qui ne veut pas et qu'il ait le droit de le faire. Et puis où que les mandats démarrent au moment où le président démarre son propre mandat. Enfin, trouver un système comme aux États-Unis où ça me choquerait pas qu'il change de directeur de la police et qu'il puisse, puisqu'il vient d'être élu démocratiquement par des millions de Français, qu'il puisse simplement appliquer sa politique. Parce que là, on voit bien quand même que c'est des contre-pouvoirs qui s'installent. Marc Guillaume au Conseil d'État, c'est un contre-pouvoir. Et c'est des contre-pouvoirs, Emmanuel, très importants. Hein. Ça empêche l'application de certaines lois. Par exemple, je prends un exemple. Bruno Retailleau, ton ami, il voulait que les centres de rétention puisse garder jusqu'à 210 jours les personnes les plus dangereuses, ça a été retoqué par ces instances.
Pas forcément que par le président, quand même. C'est qu'il y a tellement de mauvais esprits en dessous qu'effectivement, ça fait un bon concert.
Ça aide quand même.
Ouais.
Alors, on vous a posé la question, Emmanuel Macron qui nomme ses proches au poste clé, est-ce que vous pensez que c'est de l'abus de pouvoir ou finalement, c'est normal? Le chef de l'État procède dans la dernière année aux nominations et tous les responsables politiques l'ont fait. Non, je suis d'accord, j'ai pas souvenir, on n'a pas dû en 20 ans l'atteindre beaucoup de fois, le 100%. Vous dites abus de pouvoir à 100%. Pour terminer, un défi français. L'Emmental. Non, on plaisante pas, on a notre fromager Johnny Blanc qui est là avec nous. L'Emmental, aujourd'hui, 20% de l'Emmental consommé en France, il est importé. Et on a la filière Emmental qui dit stop à l'importation, il faut sauver le fromage. Est-ce qu'on doit sauver le soldat Emmental? Il est midi moins 25, ça va nous mettre en appétit avec les grandes gueules. On n'a que des fans de fromage autour de la table.
Oui, mais est-ce qu'on est fan d'Emmental? Ça, c'est autre chose.
32-16 pour venir en discuter avec les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.
Je regarde quelques-unes des réactions là qui sont arrivées sur internet, sur RMC à propos des nominations du président de la République. J'ai Anthony qui s'insurge en disant vous vous demandez franchement si c'est de l'abus de pouvoir? Bien sûr que oui. En plus, on a un président qui va quitter l'Élysée en étant encore jeune. Bah, qu'est-ce qu'il fait? Il nomme ses copains. Après, libre à celui qui arrivera ensuite de changer la loi et de faire en sorte que tout ceci ne puisse pas se retrouver. On a Magali qui dit tous les responsables politiques, tous les présidents ont fait, tous les présidents ont procédé au recasage. Que voulez-vous? Depuis que la politique est politique, on a écrit des dizaines et des dizaines de livres et de la littérature sur ses copains. Et puis j'ai Benoît qui lui écrit bah, ses copains coquins. Vivement qu'on ait LFI au pouvoir et qu'on change tout ça. La parole au peuple et vite.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Vous êtes avec les grandes gueules, c'est en direct sur RMC, RMC Story. Je rappelle que si vous avez raté les GG, vous avez les podcasts à votre disposition, podcasts dans lesquels on a parlé notamment aujourd'hui, là comme ça, en off d'intelligence artificielle, ce qui est assez bluffant, ça sert même à gagner aux courses hippiques. C'est
oui, c'est pour le jeu aussi.
Mais je rappelle que attention au jeu, hein, ça peut être dangereux, c'est une addiction aussi le jeu. Emmanuel Devilliers, Johnny Blanc et Sandrine Pégan, si on terminait en parlant bouffe, ah oui. En parlant fromage, en parlant emmental.
Du bon lait de vache, qu'est-ce qu'on fait? On fait du bon fromage. Du bon lait de vache, qu'est-ce qu'on fait? On fait du bon fromage au lait.
L'Emmental, c'est un fromage d'origine suisse. Aujourd'hui, il est fabriqué et de manière industrielle. C'est le principal fromage en France. 240 000 tonnes d'Emmental sont produits chaque année en France.
Il y a 93% des foyers français qui utilisent de l'Emmental. Alors souvent pour faire des gratins, pour mettre dans les pâtes, même des sandwichs. Et les Français en achètent en moyenne plus d'une fois par mois. Le problème, c'est qu'on pourrait produire et fournir l'emmental à tous les Français. Mais il y en a 20% qui de l'emmental consommé en France qui est acheté ailleurs, et notamment en Allemagne et en Belgique. Et là, les professionnels de l'emmental français disent que c'est pas normal. Il y a un risque d'être écrasé par les importations, même si pour l'instant, elles sont encore minoritaires, à 20% seulement, alors que la production française peut suffire à couvrir l'ensemble de la consommation. Et pourquoi achète-t-on de l'emmental belge ou allemand? Parce qu'il est moins cher. Et oui, et donc on paye pas le même prix.
On a oublié un petit détail en France quand on dit que les politiques ont fait le choix de désindustrialiser le pays. Ça me fait un peu sourire. On n'a fait aucun choix. Ça s'est fait tout seul. Parce que quand tu produis un truc que tu n'es pas capable de vendre parce que les prix que tu proposes ne sont pas à la hauteur, eh ben, t'arrêtes d'en fabriquer. Moi, je connais personne qui vend un truc, qui fabrique un truc qui ne se vend pas. Donc, quelque part, aujourd'hui, la question à se poser, c'est que il faut demain, est-ce que c'est possible? Et vu la conjoncture actuelle, ça m'étonnerait. Mais que le Français prenne conscience que chaque fois qu'il fait un acte d'achat, c'est un acte politique. C'est celui qui tient la carte bleue qui a le pouvoir dans notre pays. Personne d'autre ne l'a. Quand je dis que les politiques n'ont aucun pouvoir, c'est exactement ça. C'est celui qui a la carte bleue en main qui a le pouvoir. Et donc, si tu décides de faire l'arbitrage d'aller au moins cher, c'est pas français. Ça, c'est sûr et certain. Quand tu vas au moins cher, c'est jamais français. Très rarement.
Sandrine, emmental ou pas emmental?
On ne touche pas à notre fromage en France. Ça fait partie de notre patrimoine. Moi, le fromage, je peux le manger sur la tête d'un lépreux. C'est-à-dire que tu me mets un bon plateau de fromage, du bon pain, une bonne salade, une bonne vinaigrette et un bon vin, et ça y est, je suis la femme la plus heureuse. Hein, ça fait écho.
Donc tu choisis ton fromage français, fromager? Mais, ou tu regardes quand même, tu regardes d'où ça vient ou pas?
Oui, mais en fait, moi, je vais que dans les fromageries. J'achète pas de fromage
Parce que t'as les moyens.
Oui, mais on est d'accord. Oui,
non, mais c'est pas un reproche.
Oui, bien sûr, mais c'est surtout, tu sais ce que je recherche? Je recherche le goût. Parce que quand tu vas, j'ai déjà fait bien évidemment la comparaison en achetant un comté sous ses lopales, dans un supermarché, et un comté du même affinage dans une fromagerie, ça n'a pas le même goût. Et moi, je me dis, je préfère mettre quelques centimes de plus parce que je suis assurée d'avoir du goût derrière et que je vais aussi favoriser le petit artisan, la production, etc. Alors que là, je vais acheter du fromage en Allemagne alors que je ne sais même pas si ce sont les mêmes normes. Donc non, moi je suis pas d'accord. Moi je dis, donc, pour gagner quelques centimes, il faut privilégier français.
C'est vrai que tu restes sur un produit quand c'est fait pour faire de la fonte, sur de l'emmental. Oui. Tu cherches pas un goût, je veux dire, c'est du parce que les trois quarts d'emmental
que t'achètes, faire de la fonte, ça y est, à faire fondre le fromage.
Oui, le trois quarts d'emmental que t'achètes, c'est enrapé pour faire de la.
Oui, mais quand même, si tu vois la différence.
C'est pas là où.
Le goût quand même.
Ouais.
C'est fou quand même, c'est un fromager qui.
Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je prolonge en disant que l'emmental, ça a quand même pas beaucoup de goût.
Non.
Moi, j'adore ça avec un gratin de pâtes, mais en faisant vraiment beaucoup, en mettant beaucoup d'emmental et au four en faisant griller. Mais faut être patient, faut que ça grille. Et là c'est assez extraordinaire.
Mais c'est de l'emmental
simple.
Oui, d'accord, mais c'est de l'emmental au supermarché.
De supermarché. Oui, mais parce qu'il est évolue comme le dit.
Et tu regardes s'il est français ou pas du tout, tu t'en fiches.
Il est en général, il est français. Mais
est-ce que tu regardes?
Je pense que il faut aussi s'intéresser, par exemple, au fromage à pâte dure suisse dans ce domaine-là, les gruyères suisses. pas forcément plus cher. Et c'est un autre goût.
Ça, c'est autre chose.
Oui, c'est vrai. C'est pas la même fabrication déjà.
D'accord. L'Emmental, c'est quand même un peu bas de gamme.
Mais c'est vrai que ça va devenir un problème, effectivement, parce que
c'est des éleveurs quand même, industriels ou ce que vous voulez, c'est des éleveurs, l'Emmental.
Je pense que la plus grande région productrice d'Emmental en France, contrairement à ce que les gens pensent, c'est pas du tout du côté de la montagne, c'est du côté de la Bretagne. Parce que les gros éleveurs laitiers sont en Bretagne. Donc, c'est clair et net que.
L'Emmental, c'est breton.
Ah ben, je pense qu'on fait beaucoup de.
Qu'est-ce qu'on apprend des choses dans les GG?
Donc, effectivement, que pour les Bretons, ça va être un problème. Si effectivement le produit se vend moins, eh ben, soit tu baisses le prix du lait
Mais Johnny, est-ce que c'est bien marqué fabriqué en France sur les. Est-ce qu'on peut vraiment. L'origine est-elle vraiment mise sur le paquet?
Logiquement, l'origine, elle est marquée, mais moi, le premier, je vais dire franchement, si je suis au supermarché, j'achète un paquet d'Emmental râpé, je regarde pas d'où il vient.
Voilà, c'est ça.
Je le dis franchement.
Si on regarde pas.
Autant je vais regarder la provenance quand je vais acheter du fromage que je vais mettre sur mon plateau, là, c'est autre chose. Oui. Mais de l'Emmental râpé, c'est. Voilà.
Oui, on achète au supermarché, on regarde.
C'est vrai que le magasin qu'on a chez nous, c'est un U, et c'est vrai qu'ils sont quand même souvent sur des produits quand même français, donc à ce niveau-là.
Mais pour les Emmental, celui qu'on achète en supermarché, t'as des additifs de goût ou il a un goût naturel? Honnêtement.
Non, alors tu peux mettre tout ce que tu veux, mais c'est surtout tu mets des ferments lactiques parce que, en fin de compte, aujourd'hui, on a des laits qui sont tellement propres que faire du fromage sans rajouter des ferments lactiques du commerce, ça marche plus. Parce que les laits sont tellement pauvres en tout ce que tu vends. Parce qu'il faut plus de bactéries, il faut plus de tout ça, mais t'as éliminé tout ce qui était mauvais, mais t'as éliminé tout ce qui était bon. Donc la fleur naturelle du lait, on voit sur l'acidité du lait, par exemple. Moi, quand j'ai commencé à faire des fromages, on collectait des laits qui étaient autour de 19 degrés d'ornique d'acidité. Aujourd'hui, on collecte des laits qui sont à 13 ou 14. Il n'y a plus rien. C'est pauvre. Si tu mets juste du lait et de la présure, ça fait même plus de fromage.
Donc, t'as plus de goût.
Alors on en revient. C'est du goût.
Et après,
donc, l'Emmental a du goût.
Les goûts sur les pâtes pressées, c'est souvent dû aux fleurs d'affinage que tu rajoutes après, des levures et des choses comme ça sur le morgelage des fromages.
C'est ça. Avec les normes, on enlève tout le côté traditionnel des fromages. Je connais le cas dans le Nord avec le maroilles. Où il y a pratiquement plus de fabricants de maroilles dans la donnée traditionnelle, parce qu'il y a trop de contrôles, il faut non seulement des investissements, mais des impossibilités de fabriquer. On arrive à un système un peu le macroniste, c'est-à-dire inodore, incolore et sans saveur.
Oui, mais tu vois, moi je trouve qu'il y a un autre problème aussi.
Macroniste de l'Emmental
belge. C'est l'Emmental de la politique,
le l'Emmental belge.
On a Lionel qui est avec nous, qui est restaurateur, je crois, du côté de Montauban, qu'on ne devrait jamais quitter. Bonjour Lionel.
Oui, bonjour GG.
Et qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la bataille de l'Emmental, alors?
Ce que j'ai entendu est intéressant, parce que vous avez dit des choses que je comptais dire. Déjà, il faut savoir qu'il n'y a que deux vrais Emmental au monde, tout comme il y a deux vrais raclettes. L'Emmental AOP suisse, c'est eux qui l'ont inventé, c'est eux le vrai. Mais il est très cher, il est peu trouvé en France. Et sa copie, qui a été faite par la Savoie, l'Emmental IGP au lait cru. Hors de ces deux Emmental-là, vous n'avez que de la cochonnerie industrielle râpée en sachet. Et ces fromages-là, ils ont envahi le marché. On en met partout, même certains restaurateurs, pas moi. J'en ai pas un gramme dans mon restaurant, mais les autres restaurateurs, ils inondent leur pizza de ça, ils inondent leur galette de ça. Donc honnêtement, qu'ils viennent de Bretagne, du Massif Central, de Hollande ou d'Allemagne, c'est la même cochonnerie, pardon. C'est-à-dire que donc c'est pour ça que moi, ça m'inquiète pas que les Emmental viennent d'ailleurs. Moi, de toute façon, j'en achète jamais. Ou alors, si j'en achète, c'est du vrai. Au lait cru, AOP, Suisse ou IGP de
Savoie. Et il y a quand même un goût qui est largement différent, on est d'accord Lionel?
Surtout que les gens ils confondent, ils appellent ce machin râpé en sachet du gruyère. Râpé. Oui.
Qui a goûté du vrai Emmental? Parce que je vous suis dans c'est ça, en fait on n'a pas de point de comparaison parce qu'on achète tous un Emmental en sachet au supermarché, prend jamais l'Emmental suisse très bon et celui de Savoie.
Chez le fromager,
vous achetez des Emmental chez le fromager?
Moi je prends le sachet que au fromager.
Je n'achète pas des Emmental, c'est pas le fromage qui m'intéresse.
Et parce que je ne mange pas non plus tant de.
Quand tu achètes de l'Emmental, c'est chez le fromager. J'ai l'impression que c'est typiquement le fromage qu'on achète en supermarché.
Non, parce qu'ils te mettent des petits sachets comme ça à disposition et qui coûtent 3-4 euros, je crois.
Mais parfois, je laisse poursuivre notre auditeur, mais l'Emmental traditionnel peut maintenant aussi avoir un goût paradoxalement trop fort par rapport à ce qu'on attend.
Tout à fait.
Lionel, attendez, on a un fromager qui vient d'arriver qui est du côté de Montélimar dans la Drôme, un concurrent de Johnny Blanc. Bonjour Sébastien.
Alors bonjour, c'est Sébastien. Alors je suis pas concurrent, mais je vends les produits de Johnny Blanc, notamment le goûter sur feuille.
Formidable. Et alors c'est de la qualité, il est bon ou il y a eu des gens malades ou des morts?
Soyez vraiment honnête.
Dans la Drôme, on a beaucoup aussi de picodons, donc c'est les fromages de chèvre et c'est un AOP aussi. Enfin, non,
c'est bon les petits picodons. Ouais.
Et la bataille de l'Emmental?
Eh bien la bataille de l'Emmental, après, il faut partir sur des produits qui soient IGP ou AOP, notamment l'Emmental de Savoie, qui est un IGP et qui garantit que la provenance du lait vient bien de la région, voilà, et du secteur.
Mais comment on le voit, ça, sur le paquet?
Eh bien, comment on le voit? Parce que c'est identifié avec un petit estampille bleu et jaune et qui, ouais, vous permet d'avoir une certification. C'est-à-dire qu'en France, normalement, les certifications IGP ou AOP sont vraiment contrôlées. Et ça permet...
Mais c'est visible sur le paquet, ça. Je veux dire, le consommateur peut le voir, peut le vérifier.
Ah ben oui, car normalement, sur tous les fromages, vous avez une traçabilité avec une fabrication, un numéro de lot.
Ah, voilà. Je regarderai maintenant.
Et après, on va dire, la plupart des fromages sont des fois du lait qui ne provient pas de France. Parce qu'ils sont transformés en France et fabriqués en France, mais le lait peut provenir d'Irlande ou de Pologne.
Vous avez de moins en moins quand même, parce que le transport est devenu tellement cher que le lait, faut pas oublier que c'est 85% d'eau. Donc transporter de l'eau, ça coûte vraiment très très cher. Donc
Mais Sébastien, soyons clairs, vous êtes fromager. Oui. Est-ce qu'il y a des clients qui viennent acheter de l'emmental chez vous, oui ou non?
Ah ben oui, parce qu'ils voient la différence. La différence, elle est au niveau du goût. Elle voit au niveau votre fromage râpé que vous achetez en grande surface. Je veux pas dire le nom, qui est un emmental aussi. Vous le laissez, il prend un peu d'humidité, il devient tout moisi. Alors que vous avez un fromage qui est de qualité, qui permet d'avoir
Et vous le vendez combien, votre petit sachet? Vous le vendez combien?
Moi, je vends pas le sachet. Moi, je coupe directement et je râpe.
C'est combien la coupe alors?
Ah ben la coupe, c'est le prix au kilo, donc je suis à 29,75 le kilo de l'emmental.
Ah oui, donc c'est un certain prix par rapport à
5 euros.
Acheté sous plastique. Donc, mais toi, Sandrine, tout le monde n'a pas tes moyens à mettre des gants.
Moi, je me fais entretenir, soit pareil. Je plaisante bien évidemment, je suis une femme libre et indépendante.
J'ai souvent entendu chez vous qu'il vaut mieux consommer un produit qu'on sait d'où il vient et avec une qualité plutôt qu'avoir quelque chose qui avait un goût un petit peu insipide.
Voilà. Vous avez raison. Comment s'appelle votre fromagerie si on veut passer vous voir du côté de Montélimar?
Je fais partie d'une franchise qui s'appelle la Laiterie Gilbert.
Franchise
à Grenoble. Donc, monsieur Johnny Blanc doit le connaître.
Ce sont des clients.
Et en plus, il distribue du Johnny Blanc. Merci Sébastien et merci à Lionel d'avoir été avec nous.
Courage.
Alors, est-ce que vous êtes prêt à acheter de l'emmental français pour sauver la filière? On va regarder ce que vous en dites et on terminera.
Voilà.
Oui, à 75%. Oui. Après, il y a l'intention et puis il y a l'action.
Le problème, c'est que les Français disent toujours oui. Toujours oui. Après,
merci à tous. Johnny, très content de t'avoir revu. À bientôt dans les GG. Maître Pégan, bonne journée. Emmanuel Debillet, bon retour du côté du Touquet. Et on se retrouve demain à 9h. En attendant, venez discuter avec Estelle Midi et toute sa bande. Bonjour Estelle Denis.
Salut Alain, salut les GG. Écoutez, on va encore parler de Patrick Bruel, plein temps série, concert annulé. Il y a même Emmanuel Grégoire, le maire de Paris, qui dit qu'il devrait se mettre en pause. Est-ce que c'est la fin de la carrière de Patrick Bruel? On vous posera la question dans un instant. On parlera également d'Edouard Geffray qui veut interdire aux gamins de 10 ans de passer le bac, même s'ils ont le niveau. Bon, il n'y en a pas beaucoup.
C'est
non
dommage,
plus,
moi je pensais
c'est
pour mon fils. Je l'avais mis en terminale.
Oui, moi aussi.
À 5 ans et tant pis, il n'aura pas son bac.
Ouais, je suis un peu déçu. Bon.
Oui,
est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée?
Parce que j'ai entendu ça, mais je me dis, ça concerne qui?
Je sais pas, mais.
C'est ça la priorité à l'éducation nationale?
Non, mais ça veut dire comme ça, il y a moins de gens qui se plaignent. Quoi. Donc c'est plus simple.
Vas-y, continue.
Alors, bonne ou mauvaise idée, ça sera à 12h30. On va parler de la ville d'Annemasse. Alors, ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais qui interdit les vélos et les trottinettes en centre-ville. Est-ce qu'il faut faire ça absolument partout en France? Et puis, dernier sujet, ça va vous plaire, 14h. Nuggets frites, saucisses purées, saucisses de Francfort, poisson pané. Est-ce qu'il faut en finir avec les menus enfants au restaurant? Il y a des menus enfants partout. On leur sert de la malbouffe. Alors que, donc toi, adulte, tu vas manger équilibré, des légumes, des machins, du fromage, et ton gosse, tu l'amènes au resto pour qu'il mange des nuggets.
Ouais, mais
c'est incroyable.
Il est ravi.
Mais dans ces cas-là, laisse-le chez toi. Seul.
D'ailleurs, je suis assez pour ça.
Non, mais c'est pas normal. Mais non, mais en fait, il y a quand même un truc qui va pas.
On a le droit de finir avec des haricots verts, des brocolis.
Et tu préfères?
Et alors, le tu préfères vacances en road trip ou all inclusive? Ah, quelle horreur.
Ah, balade.
Ah, bah oui.
Eh ben, ni l'un ni
l'autre. Ah, non, c'est bon.
Les deux.
Non,
tu commences en road trip et tu finis tranquille au bord de la piscine en hold.
Ouais, alors tu fais un jour en road trip et 7 jours.
Allez, bonne émission avec Estelle au 32-16 et à demain 9h.